bonsoir. Après l'investiture du gouvernement Ilou Kamba, l'heure est à la composition des différents cabinets ministériels. Sur cette question, les états-majors de certaines formations politiques exigent aux ministres de leur obédience et réserver un quota approchant les 70% aux militants de leurs partis politiques respectifs. Certains responsables de ces mouvements se sont exprimés ouvertement à ce sujet dans certains médias de la capitale. Quelle est que faire de ces injonctions des partis politiques au ministre du gouvernement Ilou Kamba? C'est le thème du dialogue entre Congolais de ce mardi 24 septembre 2019. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Maître Daniel Asselo, secrétaire national chargé de la justice et des droits humains de l'UDPS, parti politique membre de la coalition au pouvoir. Maître Daniel Asselo, bonsoir.
Bonsoir à vous-même, à Radio Capi et à tous ses auditeurs.
Merci. Maître Hervé Diakiesse, avocat au barreau de Paris à la Cour pénale internationale. Il est aussi défenseur de droits de l'homme. Maître Diakiesse, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir aux auditeurs de Radio Capi et à mes interlocuteurs sur le plateau.
Christian Moleka, analyste, il est coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Christian Moleka, bonsoir.
Bonsoir à mes co-débatteurs, mais également aux auditeurs qui nous suivent de partout dans le Congo.
Merci, chers auditeurs, parce que vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas des maîtres Jérémy Mutombo, depuis Kasumbalesa, dans la province du Haut-Katanga. Nous devons reconnaître d'abord qu'il n'existe pas une loi stipulant comment les membres sont choisis au sein des cabinets ministériels. Le choix se fait sur base des considération familiale, amicale ou connaissance, donc ce n'est pas une obligation de prendre dans les partis politiques. Merci de nous suivre à Kisangani dans la province de la Tchopo sur la 93.8 et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Radio.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Autant l'UDPS a proposé certains de ses membres pour être nommés dans les gouvernements Ilou Kamba, autant elle propose certains de ses militants pour faire partie des cabinets de ses ministres. Le secrétaire général de l'UDPS qui fait cette révélation indique qu'à travers cette démarche, son parti politique vise le rendement de ses membres en vue de répondre aux attentes de la population. On écoute Augustin Kabouya, joint par Guy Maté.
Nous avons demandé aux collègues que nous avons proposé pour servir le pays au poste de ministre de tenir compte de certaines réalités. Nous sommes une formation politique. C'est une formation politique qui a une crème intellectuelle. Et nous avons demandé 70%, ce n'est pas quelque chose qu'on peut présenter, que nous réclame pour les militants comme si les militants n'ont pas droit au chapitre. De la même manière que nous avons désigné un même ministre, c'est de la même manière que nous allons encore désigner les gens qui doivent servir la République. On ne va plus ramasser n'importe qui pour faire partie de ces cabinets ministériels. La réalité est que l'UDPS doit obtenir son quota de 70%.
Et le ministre qui ne va pas répondre favorablement à cette demande, quel pourrait être son sort?
Nous sommes un parti politique, je pense. Nous avons parlé en bonne et due forme. C'est lui qui ne va plus suivre les consignes du parti. Nous sommes en politique. Nous allons aussi réfléchir pour ne pas humilier les partis et tout le monde qui a versé son sang pour ces partis aussi.
Donc, quand vous dites pour ne pas humilier les partis, cela veut dire que le ministre qui refuse d'obtempérer pourrait être humilié par les partis?
Non. Écoutez, nous ne sommes pas encore arrivés à cette étape-là. Nous ne sommes pas là pour humilier qui que ce soit. Je pense que le parti a proposé le ministre pour qu'il se retrouve là où ils sont aujourd'hui. L'UDPS n'a jamais organisé un concours où quelqu'un peut dire que non, c'est grâce à mon intelligence que je suis là où je suis aujourd'hui. Bon, si aujourd'hui, un ministre qui refuse de ne plus collaborer avec les partis, nous disons bravo. Mais le jour où il sera maintenant en difficulté, il faut l'intervention de son parti. Quelle sera maintenant la réaction des uns des autres?
C'était là Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Maître Daniel Asselo, je rappelle que vous êtes secrétaire national chargé de la justice et des droits humains de l'UDPS, un parti politique membre de la coalition au pouvoir. Qu'est-ce qui explique cette exigence de l'UDPS aujourd'hui?
Madame, merci beaucoup. Ce n'est pas une question d'exigence. C'est simplement une question de principe. L'UDPS n'est pas une ONG, n'est pas une fondation. L'UDPS est un parti politique. Tous ceux qui viennent pour se faire membre de l'UDPS, c'est pour un objectif. Au jour d'aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, c'est conquérir le pouvoir. Et lorsque l'on l'a conquis, on l'exerce et à de différents niveaux de la République. À de différents niveaux de la République. Au jour d'aujourd'hui, nous venons d'avoir avec nous, à l'issue des élections du 30 décembre 2018, un président de la République, fils de l'UDPS. Allez à son cabinet. Vous trouverez qu'il y a un directeur de cabinet, bien sûr, Monsieur Vital Kamerhe, qui est son allié, notre allié. Mais vous avez au moins trois directeurs de cabinet qui sont membres de l'UDPS. Adjoints, je voudrais dire. Trois directeurs de cabinet adjoints qui sont membres de l'UDPS. Félix Tshisekedi était en droit de prendre les membres de sa famille pour faire d'eux des directeurs de cabinet adjoints. Mais il a recouru à l'UDPS. Lorsqu'il s'est agi pour le président de la République de pouvoir nommer des conseillers spéciaux et principaux, nos collègues qui sont des ministres, certains, effectivement, qui étaient avec nous hier, membres de l'exécutif, ils savent comment on a géré la question. Le président de la République nous a envoyé un quota. Il a envoyé un quota à l'UDPS sur 17 conseillers principaux et spéciaux qu'il devait nommer. Il dit, moi, je prends 7. Si ma mémoire ne me trahit pas. L'UDPS, vous prenez 10.
Alors là, c'est le président de la République envoyé, donc tout comme le ministre peut vous envoyer aussi une liste pour vous dire, moi je prends tel nombre de conseillers, je réserve tel nombre à l'UDPS.
Le président de la République a été élu par la nation tout entière. Les ministres ont été choisis par le parti. Et le parti estime au jour d'aujourd'hui, comme le secrétaire général vient de le dire, que parce que la liste était longue, qu'on ne pouvait pas prendre tout le monde pour être ministre, vous êtes là, nous considérons que vous avez été ou que vous êtes pour l'instant les meilleurs fils que nous avons dû choisir, mais quand en ce qui concerne le cabinet que vous allez constituer, parce que c'est un poste qui revient au parti, on nous parle de famille. On ne voit pas les membres de famille derrière quand nous allons à des marches. Quand nous sommes toujours là dans nos activités politiques, nous ne sommes pas une ONG.
Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de membres de famille de certains de vos militants ou de vos ministres qui sont avec vous dans le parti?
L'idée n'est pas celle-là. L'idée n'est pas d'exclure un membre de famille d'un certain ministre qui serait également membre de l'UDPS. Mais qu'on ne vienne pas avec la version famille. Comme si lorsque nous nous engageons en politique, c'est toute la famille qui vient derrière nous. Donc c'est une activité tout à fait individuelle.
70%, est-ce que ce n'est pas trop?
Ce n'est pas trop par rapport à quoi, par rapport à qui? Il faut faire une comparaison. Si vous voudriez que je puisse me permettre une comparaison. Mais madame, nous la prenons. Il y a des vidéos qui circulent. Il y a des partis politiques qui donnent les quotas de 20% à leur ministre.
Vous êtes spécialiste de l'information, cherchez-la et je suis très sûr que vous l'avez. 80%, 20% et le parti prend 80%.
Vous avez décrié, c'est la chose. Vous, de l'UDPS, vous avez décrié ces pratiques du temps de l'ancien président, mais on vous retrouve aussi dedans.
Quelle pratique avions-nous décrié?
De vouloir prendre les militants et les mettre dans les cabinets ministériels.
Non, au contraire. Ce que nous avions toujours décrié depuis Mobutu, et d'ailleurs Mobutu a suivi le Tshisekedi, c'est le fait que lorsqu'on nomme quelqu'un, il veut à tout prix se référer à sa famille.
Mais et si dans sa famille, il y a des personnes compétentes qui peuvent occuper ses fonctions de conseiller.
Ces personnes compétentes passent par la liste du parti. C'est ce que nous disons. On ne les exclut pas. Mais ils viennent par la liste. Si quelqu'un voudrait prendre son membre de famille, membre de l'UDPS également, compétent, mais les noms passent par la liste du parti. Ou alors, si les noms ne passent pas par la liste du parti, mais il a un quota, il prend ces messieurs-là, membres de famille, et il les prend, il les met dans son quota de 30% pour l'UDPS, parce que l'UDPS a trop donné par rapport aux autres. Vous avez l'information.
Merci, Maître Daniel, on va vous redonner la parole tout à l'heure. Maître Hervé Diakiesé, vous êtes avocat au barreau de Paris à la Cour pénale internationale. Vous êtes également défenseur de droits de l'homme. Quelle lecture vous faire de ces injonctions des partis politiques au ministre du gouvernement, Elou Kamba?
Merci beaucoup, madame. Je tiens aussi à préciser, même si vous l'avez pas dit, je suis surtout d'abord avocat au barreau de Matadi, ce qui est mon barreau d'origine. Alors, je suis assez surpris et inquiet parce que ce que j'entends manifeste en fait une dérive grave dans la conception de l'État et dans la vision républicaine des choses. Alors, primo, un cabinet ministériel, c'est un cabinet politique, ça, on l'entend bien, du moins dans certaines rubriques, parce qu'il y a un personnel politique, il y a un personnel d'appoint, et un personnel technique, et puis il y a l'administration. Les climats qui doivent régner entre le ministre et ses collaborateurs, c'est un climat de confiance. Ça, c'est un fait. Et en règle générale, il s'entoure donc des compétences vis-à-vis des qui il a une certaine confiance pour mener la politique gouvernementale dans les secteurs qui est les siens. Mais ce que j'entends laisse croire, laisse percevoir une notion de patrimonialisation des ministères. Ok. En fait, les langages que je viens de suivre, c'est comme si l'État, la République, les ministères constituent un butin de guerre. Une fois que on l'a acquis, maintenant on va procéder au partage entre ceux qui sont allés à la chasse.
Mais là, oui, madame. Après 37 ans de lutte, est-ce que les combattants ne méritent pas des postes dans ces cabinets ministériels?
Non, là n'est pas les débats. Il faut maintenant. Les combattants se sont battus pour la démocratie, la liberté, l'État de droit, un État au service de tous les Congolais, pas seulement au service des combattants de l'UDPS. Là n'a jamais été la vision d'Étienne Tshisekedi, ni la vision du combat. On vous parle de la démocratie, les progrès sociaux. C'est les progrès de tout le monde. Sinon, on va rentrer dans les dérives de Tshibala, qui a eu des cabinets hyper pléthoriques. Il dit que c'était son sens socialiste qui l'a amené à mettre des gens. Non, quand vous voulez donner du travail aux gens, vous créez des emplois. Ce n'est pas en remplissant les cabinets. Vous menez des politiques d'emploi, des politiques de promotion des initiatives privées et vous permettez à tout le monde d'avoir de l'emploi et à permettre au pays de fonctionner. Ce n'est pas tout le monde qui va vivre sur la bête qu'est l'État congolais pour accumuler suffisamment des cotisations à ramener au parti. Ça, c'est une notion dangereuse. La République, moi, ce qui m'inquiète dans cette dérive, ce n'est pas tant le fait qu'on puisse quand même prévoir dans un cabinet un quota pour les militants, le plus
qu'est-ce
méritant.
Qui vous gêne?
Ce qui me gêne, c'est quoi? Nous sommes dans une république. Les ministres est un ministre de l'État congolais. Ce n'est pas les ministres d'un parti. Ce que j'entends là est dangereux. Les ministres, lorsqu'il entre en fonction, devient ministre de la République démocratique du Congo.
Mais il est d'un parti politique.
Bien entendu.
Il est d'un parti politique.
Son émanation politique est connue. Ça, c'est en amont.
Mais une fois qu'il entre en fonction, il est autant mon ministre qu'il est le ministre de mon confrère de l'UDPS. Donc il me doit autant de comptes qu'il doit à l'UDPS. Parce que il n'est plus le ministre d'un département de l'UDPS. Sinon il serait secrétaire national. Il est ministre de la République démocratique du Congo, de tous les Congolais. Et donc c'est dangereux de voir que un responsable d'un parti politique, si haut placé soit-il, inviter des ministres, les faire asseoir et commencer à leur dire, voilà, vous allez mettre 70% des gens dans votre cabinet. Non, c'est des propositions, c'est une possibilité. Rien n'oblige les ministres à suivre cette injonction. On n'est pas dans une logique de diktat ou d'oukase. L'UDPS, c'est un grand parti politique, il a milité, mais il reste un fait privé.
Ce sont des postes politiques. La peur est que ces ministres puissent sauter s'ils ne respectent pas la consigne.
Les ministres ne sautent que si les chefs de l'État... Et d'ailleurs, dans la logique où on est dans une sorte de coalition, cohabitation, on connaît les conditions pour lesquelles un ministre saute. Soit il a une motion de défiance à titre personnel, ou bien c'est tout le gouvernement qui saute à l'occasion d'une motion de censure. Les ministres ne sautent pas parce que il y a une querelle entre un parti, si grand soit-il, mais l'UDPS, si grand soit-elle, est un parti fait privé. L'État, la République, c'est la chose publique, comme son nom l'indique, res publica. Et de ce fait, la composition du cabinet du ministre est de sa propre discrétion. J'ai entendu une phrase qui m'a inquiété. Les ministres ont été choisis par les partis. Non, ce n'est pas ce que dit la Constitution. Les ministres peuvent être choisis au sein du parti, je suis d'accord. Peuvent être proposés parmi les cadres du parti, je suis d'accord. Les ministres ont été choisis par le président de la République en concertation avec les premiers ministres, conformément à la Constitution. Mais tout ça, c'est quoi? C'est les dérives des accords privés FCC-CACH qui ont contourné la désignation d'informateurs. Et on a maintenant de groupes privés qui pensent que c'est eux qui désignent des ministres. Et de ces faits, ils se comportent en conséquence. Ils convoquent des ministres et leur donnent des injonctions. C'est une dérive grave, il faut mettre fin à ça. Le ministre qui est en fonction, c'est le ministre de la République démocratique du Congo. Ce n'est ni le ministre du FCC, ni le ministre des CACH, encore moins de l'UDPS.
Alors, c'est des vieilles pratiques qui existent depuis Mobutu. Pourquoi c'est aujourd'hui seulement que les gens s'en offusquent?
Mais parce qu'on est dans l'alternance et non dans la démocratie. C'est parce qu'on a décrié ces choses. Nous refusons une gestion patrimoniale de l'État. Nous refusons une conception qui veut. Quel est le risque? C'est de laisser croire que désormais, pour servir son pays, si vous n'êtes ni FCC, ni CACH, donc vous restez là. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à dire. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est la particratie, l'État appartient au parti. Ce n'est pas la conception du constituant et ce n'est pas la conception pour laquelle les peuples congolais aujourd'hui ont voulu l'alternance.
Merci Maître Hervé Diakiesé. Christian Moleka, vous êtes analyste et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Comment vous analysez cette situation?
Madame, la question elle est plus complexe qu'elle n'y paraît, parce qu'elle pose à la base des questions très très profondes sur notre société. Parce que nous parlons quand même de conquête et d'exercice de pouvoir. C'est des notions très importantes. Vous avez un parti politique qui a fait 37 ans de lutte et qui accède pour la première fois au pouvoir et qui dispose certainement d'un pléthore des candidats qui aimeraient participer à la gestion. Je vais vous rappeler, il y a quelques années, un parti presque pareil à l'UDPS qui s'appelle le Palou, qui a connu le même problème. Vous avez un parti de masse qui accède au pouvoir et qui, pour besoin d'efficacité gouvernementale, préfère prendre des techniciens en dehors du parti politique pour justement atteindre l'efficacité gouvernementale. Et qu'est-ce qui se crée? Il se crée un fossé entre la haute direction du parti portée par des techniciens et la masse qui forme l'appareil justement de conquête de pouvoir. L'une des conséquences de ce fossé-là, c'est qu'au bout du mandat, lorsqu'il faudrait redynamiser l'appareil qui participe à conquérir le pouvoir, vous le perdez. Et donc il y a un dilemme entre le choix de l'efficacité en termes d'exercice de pouvoir et l'appareil de conquête qu'il faut également alimenter. Parce qu'en politique, on le sait, l'une des missions d'un parti politique, c'est de former les personnels politiques. Donc on y va pour former les personnels politiques et ils se forment au sein de l'appareil, notamment étatique. Et si l'UDPS estime aujourd'hui qu'il faut faire le choix de préserver l'appareil du parti qui a servi à la conquête, mais le danger maintenant, c'est la faiblesse de l'efficacité gouvernementale. Parce que quand vous prenez des gens qui certainement n'ont pas travaillé depuis longtemps ou qui ne disposent pas d'assez d'expertise technique pour être dans l'appareil gouvernemental, vous faites le choix de satisfaire la base, mais d'affaiblir l'action gouvernementale. Donc c'est un dilemme très important qu'il faut régler. Maintenant, on pourra parler de quotas, d'équilibre entre le choix de l'expertise gouvernementale et le choix de l'appareil de conquête. On peut parler d'équilibre, mais c'est un choix très compliqué qui démontre en même temps les limites de nos partis politiques. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que, généralement, les personnes qui sont porteurs de ces discours sont ceux qui n'ont pas été nommés dans l'appareil gouvernemental. Qu'il s'agisse au PPRD ou qu'il s'agisse à l'UDPS, ce sont probablement des prétendants qui n'ont pas eux-mêmes été nommés dans l'appareil et qui veulent garder une certaine mainmise dans la conduite du parti. On le sait, dans nos partis politiques, l'allégeance dépend également de ceux qui sont capables de recommander. Et donc, lorsqu'on perd la capacité à recommander, on perd l'allégeance. Et donc, il s'agit également, d'une certaine manière, de survie politique de ceux qui prennent ces options-là. À côté de cette question d'allégeance et de survie politique, il y a les aspects qu'on ne dit pas. Ce sont les contributions qu'on impose, entre guillemets, des 10% aux membres des partis, qui sont censés demain renflouer la caisse du parti. Dieu seul sait où finissent ces sommes d'argent.
Est-ce que c'est pas normal? C'est pas une pratique normale, ça?
Ce sont des pratiques discutables qui ne sont pas de l'ordre du légal, qui pose des questions d'éthique, de moralité, mais que la loi n'a pas encadré.
Et parce parti doit vivre.
Parce que le parti vit les cotisations des membres. Est-ce qu'il faut le faire au niveau...
Les ministres, ils sont membres de ces partis politiques.
Est-ce qu'il faut le faire au niveau de l'appareil gouvernemental? Ça peut se discuter. Mais ce sont des choses que la loi n'a pas encadrées, et puisque la loi n'offre pas des cadres assez précis, eh bien, les gens s'y engouffrent. Donc, il y a un vrai problème, qui est un problème d'efficacité gouvernementale qui va se poser, parce que lorsqu'on impose des quotas, je prends un exemple, l'UDPS a aujourd'hui le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur a besoin d'une expertise technique. L'UDPS a un ministre délégué à la Défense. Le ministre de la Défense a besoin d'une expertise technique.
Est-ce qu'on n'en trouve pas au sein de l'UDPS, on ne peut pas en trouver?
Vous savez, l'expertise, ça ne se décrète pas. Lorsqu'on a fait 37 ans de combat sans participer à la gestion, on a un coefficient négatif qu'il faut également assumer. Il faut être réaliste et l'accepter. Donc, l'expertise ne se décrète pas. Il faudrait avoir la lucidité de dire, il y aura d'expertise qu'on n'aura pas au sein du parti, que l'on peut trouver à l'extérieur, tout comme il y a au sein du parti des compétences que l'on peut trouver. Et le problème, c'est l'équilibre. Parce que si on ne trouve pas le bon équilibre entre l'efficacité gouvernementale et cette formation du personnel politique qu'il faut former et qui trouve du répondant au sein du gouvernement, eh bien, on est parti pour les impairs.
Et donc, vous estimez que les partis politiques n'ont pas le droit de demander au ministre ou d'imposer au ministre un certain pourcentage de quotas pour les membres qui doivent faire partie des cabinets?
En politique, il y a des pratiques non écrites. Presque de manière générale, tous les partis politiques, pour ne pas dire propose, impose des quotas aux ministres, de manière non écrite. Et c'est connu dans toutes les formations politiques. Moi, je crois que peut-être la maladresse de l'UDPS, c'est d'en avoir fait un débat public et d'avoir, de manière trapageuse, porté la question. Et ça, c'est la communication du secrétaire général qui ne correspond pas. Mais c'est une pratique non écrite qui se fait chez nous. Est-ce qu'elle est légale? La loi ne l'encadre pas. Est-ce qu'elle est amorale? On peut faire un débat de moralité, mais la politique a sa réalité. Et la réalité politique, c'est que nos partis politiques ont toujours tendance à avoir de l'emprise sur les ministres qu'ils délèguent. C'est un fait. Et l'un des moyens d'avoir de l'emprise, c'est d'avoir des hommes que l'on envoie au sein des cabinets. Tout en sacrifiant, bien évidemment, le choix de l'efficacité gouvernementale. Parce que quand on fait ce choix-là, on affaiblit forcément l'efficacité gouvernementale.
Merci Christian Moleka, maître Daniel Asselo. Avant de réagir aux propos de maître Avedia Kiesse et Christian Moleka, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kolwezi, dans la province du Lualaba.
Chouk Mouidiro à partir de Kolwezi. Connaissant les faiblesses que connaissent certains partis politiques des masses, surtout en ce qui concerne l'encadrement et la formation académique de leurs militants, je crains que nous ayons du personnel non qualifié dans certains cabinets ministériels. Parce que sous d'autres signes, nous voyons des ministres se faire entourer que par des experts et hommes de science dans leur cabinet. Alors, imposer un quota de 70% aux ministres, je pense que nous voulons encore retourner dans le clientélisme et le népotisme que nous avons tous combattu. Il n'y a pas que les partisans des partis politiques qui méritent une récompense, mais le peuple en général. Parce que la lutte pour l'alternance n'a pas concerné que les partis politiques. C'était aussi notre lutte. Il y a la société civile, les mouvements citoyens, le média et le défenseur des droits de l'homme.
Maître Daniel Asselo, cet auditeur rejoint pratiquement les analyses de vos deux combatteurs.
C'est un peu du mépris
que je note au nom de mon parti des propos de mes deux co-débatteurs et même de l'intervenant de tout à l'heure de Coloisi. En fait, l'impression qu'on voudrait donner, c'est qu'à l'UDPS, il n'y a rien. Maître Diakhessé, je suis avocat âgé aujourd'hui de 15 ans d'exercice ininterrompu de la profession. Pour ne parler que de moi-même. Mais je suis chaque jour au service de mon parti. Si l'UDPS a envoyé dans ce gouvernement un, deux ou trois avocats, confrères, rassurez-vous qu'il y en a tant qui restent qui n'ont pas pu être choisis pour être ministres. Si l'UDPS a envoyé deux médecins, trois médecins dans ce gouvernement, rassurez-vous qu'il y en a dix autant qui sont là et qui n'ont pas pu être choisis comme ministres. Comment on veut nous présenter dans l'opinion? C'est parce que nous nous sommes mis 37 ans durant en train de combattre un régime que les gens pensent ou sont tentés de penser qu'à l'UDPS il n'y a rien. D'ailleurs, même nos ministres que vous semblez défendre, je ne sais pas si vous aviez eu le droit de venir ici parler de nos ministres. Ce sont nos ministres. Mais vous nous mettez dans un même lot. Ceux qui sont aujourd'hui au gouvernement, du moins ceux qui étaient avec moi à l'exécutif du parti, chaque jour nous nous retrouvions en train de travailler pour le parti. Vous voudrez dire, par vos propos et par les propos de cet intervenant de Coloisi, que même nos ministres là n'ont rien dans leur tête? Parce que nous étions en train de travailler quotidiennement avec eux. Et si nous avons réussi à pouvoir changer les choses dans ce pays, mais c'est justement parce que nous étions en train de travailler, on ne faisait pas que de marche, on réfléchissait comme tant d'autres Congolais. Alors, cette expérience-là, l'expertise, nous, on ne comprend rien. En fait, je voudrais tout simplement rassurer.
Les gens se font une fausse image de l'UDPS.
Une très fausse image de l'UDPS et ça nous gêne. C'est pourquoi je m'adresse à un confrère qui est à côté de moi. Je lui dis, j'ai 15 ans d'exercice de profession d'avocat ininterrompu. Peut-il me regarder et me dire, Maître Asselineau n'a aucune expérience. Lorsque mon ami
Christian Moleka
dit que on va cette histoire des cotisations ou mais vous voulez qu'on encadre quel principe? J'ai dit que nous sommes dans un parti politique. C'est une question interne. Vous voulez qu'on prenne une loi pour dire tout député membre d'un parti politique doit aller cotiser dans son parti, dans son parti. C'est ça. On veut quoi? Nous avons nos statuts. Chaque parti politique a des statuts qui ont été acceptés par l'autorité du lieu où il exerce ses activités. Nous, à l'UDPS, nous avons nos statuts. Et nos statuts prévoient les cotisations. Et nous nous disons, chaque membre cotise pour autant de francs congolais. Et s'il y a un membre qui est nommé ministre, il verse pour l'intérêt de son parti autant de francs congolais, par exemple. Mais vous voulez comprendre quelle loi mettre, Monsieur Moleka? C'est pour aller dire quoi? C'est pour aller dire quoi? Donc, le fait pour nous, pour un parti politique, de faire ce qu'il faut, on violerait quelle disposition légale pour qu'on aille encore encadrer? Vous voulez trop de lois dans ce pays?
Merci, Maître Asselineau.
Donc, madame, je m'excuse beaucoup. Vraiment, j'étais en train de demander à mes amis d'avoir de la considération
à
ces grands partis politiques que nous sommes. On ne voit pas, on nous parle de la République, on ne voit pas une République marcher sans qu'il y ait un groupe qui dit, nous sommes là pour conquérir le pouvoir et gérer.
Merci Maître Asselo. Maître Hervé Diakiesse, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient d'où déjà, qui nous vient de l'ICASI.
Fiski Pabi Kankonde, avocat au barreau du Haut-Katanga depuis l'ICASI. La démarche entreprise par les partis politiques à l'égard de leurs membres devenus ministres dans le gouvernement Ilunga Ilunkamba me paraît être tout à fait normale et salvatrice dans la mesure où ces ministres qui sont membres de ce gouvernement sont l'émanation de ces partis politiques. Quoi de plus normal que les partis politiques puissent faire de telles recommandations à leur égard afin de prendre ces deux membres de leur parti politique comme étant des conseillers dans leurs différents cabinets respectifs. Mais s'il y a proposition à faire vis-à-vis de ces ministres au regard des partis politiques, c'est de tenir compte de l'aspect compétence, parce que ne devient pas conseiller qui veut, c'est de la technicité. Alors, pour éviter à ce qu'on ait des gens qui sont pratiquement des figurants dans des cabinets ministériels, alors il faut tabler sur la compétence que d'aucuns appellent la méritocratie.
Maître Hervé Diakiesse.
Oui, merci beaucoup. J'aimerais d'ailleurs, en liminaire d'abord, rassurer mon confrère. Le débat n'est pas sur les compétences ou les non-compétences dans l'UDPS. En tout cas, ce n'était pas ça le thème de cette émission. Les débats, restons circonscrits, demeurent de savoir si on a le droit d'imposer à un ministre un quota de 70% des conseillers dans son cabinet.
Alors, il est revenu sur ça pour répondre à Christian Moleka qui a parlé d'efficacité des compétences.
Mais effectivement, mais oui, mais parce que mon confrère m'a à un moment donné interpellé intuit ou personné. Vos CV, on le sait, vous avez 37 ans de lutte, ça, personne ne doute. Mais nous parlons de la République. Permettez-moi d'être concerné parce qu'il s'agit de la République démocratique du Congo et je suis citoyen de cette République. Et donc, quand on parle des ministres de mon pays. On ne parle pas, les ministres ne sont pas vos propriétés privées, même s'ils étaient militants de votre parti, mais une fois en fonction, ils sont les ministres de la République démocratique du Congo. Ils ne sont pas payés par votre parti, ils sont payés par notre argent à tous. Donc leurs compétences et leur rendement m'intéressent. Donc j'ai le droit de savoir avec qui veut travailler mon ministre. Et j'ai le droit d'exiger qu'il soit compétent. Donc quand je vois un parti qui est un fait privé, même après 37 ans, vous demeurez un fait privé. Vous n'êtes pas l'État. Votre opinion est une opinion isolée au même titre que n'importe quelle autre opinion. C'est normal. Vous avez gagné les élections, vous avez des ministres émanant de votre parti. L'intervenant, notre confrère commun, est en train de le dire. Il exige la méritocratie. Donc même ces conseillers, nous espérons qu'ils soient méritoires. Mais mon idée à moi, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de militants de parti, parce que c'est une illusion. J'ai dit dès le départ, il y a un climat de confiance qui s'est créé sur le plan politique entre les ministres et les collaborateurs au sein du cabinet. Mais là où je m'insurge, je vais continuer à m'insurger, c'est d'en faire une sorte de quota obligatoire. Quand les secrétaires généraux de votre parti convoquent des ministres de la République démocratique du Congo dans votre siège pour leur imposer un quota de conseillers, j'ai dit que c'est inadmissible. Ces ministres sont des ministres de la République de mon pays, aucun parti privé. Ce sont des cultures qu'on doit abandonner. Il y a pas longtemps, vous dénonciez le fait que les gens allaient s'aligner là à Kingakati en train de prendre des instructions. C'était inadmissible. Vous imaginez vraiment Étienne Tshisekedi, premier ministre, se faire convoquer par un secrétaire général de l'UDPS et recevoir des instructions. Vous savez bien que c'est totalement inimaginable. Parce que il avait une notion de l'État, il avait un charisme personnel et il avait un sens du combat. Donc nous devons garder ces valeurs. Nous devons rester républicains avant, par penser d'abord République démocratique du Congo, État de droit, notre nation, avant de penser mon parti. Personne n'est contre le fait que les militants de l'UDPS soient dans les cabinets. Mais de toute façon, c'est un non-sens que de refuser ça. Mais nous sommes contre le fait d'imposer au ministre de la République démocratique du Congo. Et puis vous nous demandez au nom de quoi nous parlons des ministres. Mais c'est pas les ministres de votre parti. Est-ce que vos statuts, vous avez une fonction ministre dans vos statuts? Ça n'existe pas. Dans vos statuts, ce sont des secrétaires nationaux. Les ministres sont dans la constitution de la République démocratique du Congo. Nous ne parlons pas des militants de votre parti. Nous parlons des ministres de la République démocratique du Congo à qui un parti fait privé fait injonction de pouvoir avoir un quota obligatoire des militants. Mais il est tout à fait normal qu'un ministre de l'UDPS travaille avec des militants de l'UDPS. Donc on doit un peu équilibrer. personne ne remet en cause vos CV. On est très certain que vous avez les meilleurs CV qui soient.
On va prendre aussi pour vous, Christian Moleka, cette dernière réaction qui nous vient de Mbandaka.
Trifène Nzoko depuis Mbandaka. Cette démarche m'apparaît juste ce qui est dans le passé. Les ministres se sont distingués dans la nomination des membres de leur famille, au détriment de ceux-là qui ont milité pour le parti. Seulement, nous demandons aux quartiers généraux des partis politiques de choisir les hommes et femmes compétents pour la bonne marche des ministères.
Bon, on revient encore sur la compétence.
Je l'ai dit d'une certaine façon, peut-être mettre... Maître Daniel qui en a fait une affaire personnelle et voilà, on parle de son parti, c'est normal. Mais je crois l'avoir souligné qu'il y a un équilibre à respecter entre volonté d'efficacité gouvernementale et volonté de remercier l'appareil de conquête. Et je crois l'avoir souligné à plusieurs reprises. Personne ne dit ici que les militants de l'UDPS n'ont pas le droit d'entrer dans le cabinet comme ministériel. Et je l'ai même souligné, je l'ai pas loué en 2006. A mis en avant l'efficacité gouvernementale, c'est là affaibli le parti. Donc si on prend l'option aujourd'hui de dire voilà, on prend les techniciens de l'extérieur, Banque mondiale, FMI, on met dans les cabinets, ça va affaiblir l'appareil de conquête dont on a besoin dans quelques années. Je l'ai déjà dit. Le problème, c'est l'équilibre qu'il faut trouver entre l'appareil de conquête qu'il faut conserver et l'efficacité de l'action gouvernementale. Madame, entre nous soit dit, il y a de ces expertises, hein, qu'on ne peut pas trouver dans un parti politique, dans aucun parti politique par exemple. Moi je connais des gens qui ont fait 20 ans comme experts dans un domaine sur recommandation de la Banque mondiale. Il vous dit voilà, pour cette question, l'homme maison s'appelle telle personne. Par exemple dans les mines. Allez dans les promines, demandez, on vous dira, ce type là, ça fait 10 ans, la Banque mondiale vous dit, pour travailler dans tel secteur, c'est ce monsieur ou personne d'autre. Parce qu'il a l'expertise avérée. Cette technicité-là, on ne la ramasse pas. C'est pourquoi nous disons qu'il y a, c'est vrai, cette volonté de placer les membres du cabinet, du parti politique, ce qui est légitime, mais en même temps, il faut trouver l'équilibre avec la finalité de l'efficacité gouvernementale. Et l'équilibre, c'est avoir l'expertise. Et l'expertise, c'est pas forcément dans les partis politiques, on peut le trouver ailleurs. C'est pourquoi moi j'estime que parler de quota obligatoire, c'est trop, mais parler d'échange autour des propositions que l'on peut présenter à un ministre, c'est faisable, c'est discutable. C'est une pratique, je l'ai déjà dit, non écrite, qu'on retrouve dans tous les partis politiques, pas seulement l'UDPS.
Cher ami, oui. Oscar Kankou, qui nous écrit depuis Kananga, il dit ceci, je trouve fondée cette injonction que ces formations politiques, aux ministres de leur obédience, dans la mesure où les cabinets ministériels sont des structures hautement politiques, en tant que telles, ils doivent être principalement composés des militants des partis politiques dont font partie les ministres.
La question qu'on devait déjà se poser, est-ce que nos partis politiques forment les militants à la gestion et à la gouvernance? Parce que voilà, tout le monde parle aujourd'hui, il faut que les militants soient au sein des ministres, mais est-ce que nos partis forment les cadres à la gouvernance, pas au combat politique, à la gouvernance? Est-ce qu'on forme les gens à occuper les fonctions de responsabilité au sein de la gouvernance? On ne l'a pas. Combien de partis politiques ont des académies où on peut former les hauts cadres aux questions de droit administratif, aux questions de droit constitutionnel, aux questions de technique, des rédactions administratives? Combien de partis politiques forment des gens ça? Dans nos partis politiques, on ne prépare pas l'élite. C'est parce qu'on ne prépare pas l'élite qu'on se retrouve à faire ce débat. On aurait des partis politiques qui préparent les cadres, que ce serait tout naturel de prendre les cadres dans les partis. C'est parce que dans nos formations politiques, on met plus l'accent dans la lutte politique, dans le combat, que dans la gestion et l'exercice du pouvoir. Et si nous sommes à faire ce débat, c'est parce qu'il y a réellement besoin de cadres au sein des formations politiques, et pas uniquement l'UDPS. J'ai donné l'exemple du Palou il y a quelques années, on pourra en citer d'autres. Nos partis politiques doivent peut-être s'inspirer de ces cas pour travailler demain à former les élites qui vont participer à la gouvernance. Vous savez, je prends un exemple, un pays comme la Grande-Bretagne, à ce qu'on appelle le shadow government. C'est-à-dire, vous êtes opposition, vous formez un gouvernement de l'ombre, un gouvernement fantôme, qu'on appelle le shadow government, qui est constitué de même ministère que le gouvernement officiel. C'est-à-dire, si vous avez un ministre de l'économie, vous avez à l'opposition, dans le shadow government, un ministre de l'économie d'opposition, et qui fait des contre-propositions. Techniques. Vous avez un ministre de la santé qui fait du shadow government, et qui fait des propositions de contre-propositions techniques. Ça veut dire que vous préparez vos gens, le jour où ils seront à l'exercice du pouvoir, à maîtriser les dossiers parce qu'ils ont fait des contre-propositions. Nous n'avons pas cette culture-là, nous la faisons pas non plus, et donc nous avons des cadres qui ne sont pas préparés. Et quand nous accédons au pouvoir, mais puisqu'il y a un combat politique ou une lutte à remercier, mais on se retrouve à discuter des mérites des gens alors qu'ils ont fait peut-être des années à combattre et qu'ils méritent légitimement à être récompensés.
Maître Daniel Asselo, comment vous répondez à Christian Moulika lorsqu'il pose la question de savoir si vous formez des gens au sein de vos partis politiques?
Je voudrais d'abord rassurer Monsieur Christian.
Allez-y rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps.
Je suis parfaitement d'accord avec lui sur la question expertise-efficacité. Je voudrais vous rassurer que dans la démarche du parti, il n'est pas dit que on va envoyer à un ministre de l'UDPS un monsieur n'importe qui. Tous ceux qui sont là-bas, des Congolais, qui ne sont pas nécessairement membres effectifs de l'UDPS, que vous connaissez, que moi je connais, que tel connaît. L'UDPS est dans les bonnes dispositions politiques et psychologiques de pouvoir les associer. Mais nous voudrions que, en ce qui concerne les nombres de membres au cabinet, parce que c'est un cabinet politique. C'est un cabinet politique, mon frère.
Alors, vous allez conclure, et donc, maître on va Daniel Asselo.
Je réponds à sa question.
On a plus beaucoup de temps.
La question de tout à l'heure, là, la formation. Mais vous m'avez présenté pour ne parler que de l'UDPS. Je suis le chef de département de la justice et droits humains de l'UDPS. Toutes les questions des droits et de la justice, c'est moi qui les gère.
Merci.
Donc,
on a compris.
Il y en a
voilà,
autant.
On forme les gens.
On forme des gens.
En une
nous
phrase, votre conclusion, maître Asselo. Une phrase pour conclure.
Une phrase pour conclure cette émission. Je crois que c'est là que vous posez comme problème. C'est tout simplement pour dire que...
vous prenez beaucoup de temps.
L'UDPS travaille, donner de la valeur à nos ministres, à nos cadres.
Merci,
qu'il n'y ait pas ce
mépris-là.
Ce mépris-là.
Merci beaucoup, on vous a compris. Maître Dekier, c'est votre conclusion.
Nous pensons que la leçon a été comprise. L'État est distinct des partis privés. Et le ministre de la République démocratique du Congo, même émanant d'un parti, est un ministre de la République avant tout.
Merci, maître Diakye. C'est Christian Moulika.
Moi, je dirais qu'il faut trouver l'équilibre entre la nécessité de l'efficacité gouvernementale et la nécessité de remercier les militants. Il faut vraiment trouver le juste équilibre. Sinon, ce bilan politique qui va servir à conquérir le prochain mandat, nous ne l'aurons pas.
Merci, Christian Moulika. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Maté, Donna Madimba, William Lungamba qui était à la mise en onde. Présentation et coordination Kelly Nkouté. Merci Axel Gonto qui a supervisé ce programme. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.